Bonjour.
Votre présentation semblait vraiment miser sur toute la notion de prévention.
Ben, tout à fait. Nos services essentiels, fondamentaux, qu'on parle souvent des soins intensifs, de la protection de la jeunesse, un enfant qui vit des difficultés, les parents vivent souvent, bien sûr, des difficultés, ben, il faut s'en occuper. Donc ça, c'est la pointe, le sommet de l'iceberg dont il faut se préoccuper. Mais pour tous les problèmes de santé ou les problèmes sociaux, si on n'est que réactif dans ce cas-ci, à la protection des enfants, il faut réfléchir un peu avant. Qu'est-ce qui les a amenés là? Ouais. Quels sont les risques? C'est quoi les nids de poules qui sont sur le chemin des familles, des enfants? Donc, comment on peut combler ces nids de poules, mais surtout améliorer la route dans le développement de l'enfant pour qu'il réussisse bien à l'école, qu'il ait une bonne vie familiale? Alors, vous voyez que ça nous élargit la perspective des soins,
ouais,
fondamentaux, mais qu'il faut avoir le courage d'investir aussi avant. Avec des CPE plus accessibles, il faut rejoindre les familles qui ont des besoins puis qui ne consultent pas, qui ont des problèmes de transport, de revenus. Il faut améliorer les logements sociaux. Et donc, il faut avoir toutes ces actions avec la communauté. Si on pense à l'Estrie, bien, dans chacun des coins de l'Estrie, est-ce qu'on a ce travail-là avec les communautés,
ouais,
pour identifier les parents qui sont plus à risque?
Est-ce qu'on a les ressources? Est-ce qu'on a les ressources pour ça, d'ailleurs, et surtout la bonne porte d'entrée? Parce que moi, je peux être témoin de situations. Je peux me dire aussi, je vais me mêler de mes affaires, mais en même temps, qui je vais voir pour peut-être dire, regardez, on a peut-être un problème en devenir, puis avant que ça se produise, est-ce qu'on peut agir?
Ben, en fait, la première ressource, c'est de connaître la situation, nos connaissances. Or, les connaissances sont là. Il y a des interventions, mais au niveau des ressources, trop éparpillé, pas assez généralisé. Il y a des bonnes idées, il y a de la bonne volonté partout, mais on a encore des trous dans notre... C'est un fromage gruyère. On a encore des trous dans notre façon d'organiser les services. Alors, à votre première question, oui, il faudrait plus de ressources en prévention, mais
oui,
aussi en première ligne. Alors, on
pense,
on a des intervenants en Estrie qui offrent des services de prévention qu'on appelle les CIP, les services intégrés en périnatalité, en petite enfance. Donc, ces services-là, on n'en a pas assez selon les mesures objectives. Et puis, une bonne part de ces ressources-là, pas par mauvaise volonté, mais ils travaillent déjà aux prises avec des gens qui vivent des difficultés, qui auraient besoin de soins. On pense aux gens aux prises avec des problèmes de santé mentale, de consommation excessive, de dépendance, alcool ou autre. Donc, ces gens-là ont besoin de services pointus spécifiques. Puis toute la population, tous ceux qui n'ont pas ces difficultés-là, mais vivent des risques par la pauvreté, par la monoparentalité, par la mauvaise ou la faible éducation quand on n'a pas terminé son secondaire, par exemple. Donc, ces risques-là, il y a des services insuffisamment pourvus, mais en plus détournés vers d'autres plus pointus. Alors, il faut travailler dans les équipes de la santé, il faut travailler pour aider les gens qui vivent des difficultés de santé mentale toxico, mais pour une population encore plus large, il faut réfléchir en amont quels sont les outils de prévention auprès des parents. Est-ce qu'ils ont les habiletés pour bien reconnaître les capacités de l'enfant?
Ouais.
Il y a parfois des interventions auprès de l'enfant lui-même et la communauté qui entoure la famille. Donc, il y a trois pattes, si on veut, à notre tabouret de l'intervention préventive.
Mais avant de revenir concernant les parents, de ce que vous me dites, je décèle quasi un message qu'on travaille peut-être trop en silo aussi dans plusieurs, je dirais, comités ou ressources, que dans le réseau même de la santé et des services sociaux, on travaille pas mal trop en silo.
Ah oui, c'est clair. Dans toutes les interventions qu'on fait, on réfléchit à partir d'un problème, mais habituellement, les problèmes, ils se ressemblent. Et les facteurs de risque, qu'est-ce qui explique qu'un enfant va moins bien se développer? Qu'est-ce qui explique qu'il va y avoir de la consommation d'alcool? Qu'est-ce qui explique que même il va y avoir des maladies chroniques plus tard? Ben, un bon départ, le développement des enfants, c'est bien reconnu maintenant que c'est pas juste pour réussir ta première année. Ça va te suivre toute ta vie. Ça colle à la peau certaines des difficultés que vont vivre les enfants. Donc oui, il faut traverser les frontières. Puis, moi qui ai travaillé au niveau national, au provincial, je pourrais vous dire que les murs au contraire d'une maison, les murs sont plus épais en haut qu'en bas.
Donc, c'est ça l'affaire.
Quand on est sur le terrain, le maire de la ville, l'intervenant communautaire, le CLSC à côté, ces gens-là se voient pour toutes les problématiques. C'est plus facile, proche du terrain,
ben oui,
de briser les silos. Alors, quand tout le monde aura compris ça, qu'on doit traverser avec une approche préventive, par exemple, la réduction de la pauvreté. Il n'y a aucun problème de santé qui n'est pas lié à la pauvreté.
Ouais.
Donc, la lutte contre la pauvreté puis favoriser l'inclusion, que ce soit de nos immigrants, mais de nos pauvres ici, là, pure laine à la limite. Ouais. Bref, réduire, redistribuer la richesse. Il y a de la richesse au Québec.
Mais en même temps,
mieux la redistribuer, c'est bénéfique.
Ouais.
C'est bénéfique pour tout le monde. Les riches comme les pauvres, tout le monde améliore leur santé. C'est bien démontré dans la littérature que c'est pas juste « Ah, on va aider les plus mal pris ». Toute la société, il y a un gradient social associé. Donc, quand on veut travailler sur la pauvreté, ben là, ça traverse tous les problèmes de santé et toutes nos structures et nos services gouvernementaux.
Mais vous l'avez dit, Dr Poirier, tout à l'heure, ça va vous prendre une bonne masse également pour briser les murs un peu trop rigides à même les CIUS et CIS et compagnie, là.
Je dirais que la masse dont on a besoin, c'est un petit marteau, constamment, 100 fois sur le métier, répéter les messages. Et je dirais qu'avec le temps, ça passe mieux. Puis ça passe encore mieux quand on se préoccupe des enfants des tout-petits. C'est pas vrai qu'il est trop tard quand un enfant a un problème à 3-4 ans.
Ouais.
On va pas juste dire, ah, on va le soigner, il y a 3-4 ans, il y a un problème. Mais non, on est vraiment, le soin est aussi intégré à une perspective de prévention. Il va vivre toute une vie et une meilleure qualité de vie.
Ouais.
Il va vivre plus longtemps et en meilleure santé si, dès le départ, on commence. Et le départ...
Ouais.
On l'a dit ce matin dans notre présentation à la commission Laurent, ça commence dès la vie de grossesse. Il faut que quand quelqu'un, une femme, est enceinte, il faut que dès lors, il y a un intervenant qui discute avec elle, puis voit où elle se situe, comment elle se loge, c'est-tu le premier bébé, quel est son niveau de scolarité, qu'est-ce qu'elle comprend de comment fonctionne un enfant.
Mais encore faut-il que les intervenants aient le temps de faire ça aussi, là.
Oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi dédier des ressources dont c'est la job.
C'est ça.
On a beaucoup parlé ce matin des agents de milieu. Leur job, c'est pas de faire de la chirurgie cardiaque au CHUS. Leur job, c'est de faire de la micro-chirurgie, du micro-accompagnement avec les gens qui vivent des difficultés pour les aider, trouver les corridors de service, là, les aider à entrer quand c'est un service qu'ils ont besoin. Mais parfois, c'est d'entrer au CPE, c'est de connaître l'éveil à la lecture que la ville fait parce qu'ils ont une petite bibliothèque. C'est toute une série de services dans la communauté. L'agent de milieu, il va aussi acheter parfois des ballons de soccer parce que les jeunes, dans leur succès, ils ont envie de commencer là où ils ont du plaisir. Ils ont envie de jouer ou donner des coups de pied dans un ballon. Bien ça, c'est générateur de santé, que ce soit ça, ou jouer de la flûte traversière. Donc, il faut penser aux autres déterminants dans la communauté qui vont faire que les enfants vont grandir positivement dans leur famille.
Mais,
bien sûr, s'occuper des parents.
Vous avez, et on va terminer avec ça, vous avez abordé la question des parents tout à l'heure, que bon, on peut outiller les parents à être plus alertes aux situations de leurs enfants, mais il y a des parents qui ne le sont même pas sur leur propre situation, et ce qui engendre des drames épouvantables pour les enfants, là.
Ben, les parents, qu'ils soient, que ce soit les parents d'enfants à la DPJ et autres, on s'aperçoit que même quand on mesure, non pas des difficultés comme la négligence, la maltraitance, la violence, mais même quand on regarde nos enfants, comment ils arrivent à la maternelle, équipés pour bien réussir l'entrée à l'école, ben, le chiffre est assez élevé. On ne parle pas de parents maltraitants, mais les parents vivent une détresse, la souffrance. Les jeunes, mettons les 18, 30-35 ans, quand on a mesuré en 2012 et on le reprend en 2017, 104 questions chez tous les enfants de la maternelle au Québec, et on s'est détérioré. Les enfants n'ont pas progressé dans la bonne direction. Ils ont des déficits dans 5 grands domaines de développement.
Oui.
L'explication n'est pas parfaitement claire, mais beaucoup évoquent le fait que nos parents vivent de la difficulté. Ils travaillent tous les deux.
Oui.
C'est pas une difficulté de travailler tous les deux. Mais il faut les aider avec des bons services de garde éducatifs.
Oui.
Il faut les aider comme entrepreneurs avec la conciliation du travail-famille.
Oui.
Il faut améliorer le revenu des familles
mais,
où un père travaille ou une mère.
Je comprends, docteur.
En bas du seuil de pauvreté. Quand tu es en bas du seuil de pauvreté, tu vis de la détresse.
Ouais.
Tu choisis un mauvais logement. Tu es dans un quartier plus défavorisé. Donc, il y a des actions au-delà de blâmer les parents. Il y a des parents qui ne comprennent pas bien le développement de l'enfant. Mais il faut que la société aide tout le monde, mais notamment les jeunes parents, à sortir d'un niveau de détresse qui semble avoir progressé entre 2012 et 2017. Puis, au 2022, 5 ans plus tard, on aura un autre rendez-vous.
Ouais.
Ma collègue, ce matin, en commission, disait on va avoir un autre examen. Ben, il faudrait mieux réussir cet examen. Ouais. Au lieu de continuer à observer une détérioration de nos tout-petits, on veut tourner dans la bonne direction, comme vous l'avez dit, en brisant des silos, notamment.
Merci, Dr Poirier.
Ça me fait plaisir, M. Pelletier.
Merci.